Le libre dans tous ses états, c'est un tout petit bout de divergence numérique que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Alexis Kaufmann qui est en face de moi. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors on est ravis de te recevoir dans les studios de Divergence en chair et en os. On a l'habitude de te recevoir sur Radio RMLL, mais là c'est jamais à Montpellier, c'est toujours très loin. Donc welcome, bienvenue à toi dans ces locaux dont tu peux apprécier la vastitude aujourd'hui.
Merci beaucoup pour l'accueil. Je viens de tweeter que après des années d'écoute sur le net de Divergence, ça me fait vraiment quelque chose d'être là parmi vous aujourd'hui.
On aura tout l'occasion de parler du dernier Framabook avec Christophe Mazzutti qui sera avec nous au téléphone. Un pavé, on va dire, un pavé à mettre dans votre bibliothèque et à compulser pendant des années. Un livre qui ne sera pas éphémère, dont la durée de vie sera assez longue, puisque c'est, on va dire, une grande histoire du libre avec une majuscule, de sa culture, de ses outils, etc. Ce sera donc l'objet, et puis on parlera aussi évidemment de tous les autres aspects de Framasoft dont tu es le fondateur, faut-il le rappeler. Comme nous vous l'annoncions, on est à présent au téléphone avec Christophe Mazzutti. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alexis est là aussi, il pourra aussi intervenir s'il le souhaite. Donc on est là pour parler bien d'un ouvrage collectif et plus que collectif, puisque si j'ai bien compté, il y a plus d'une vingtaine de contributeurs à cet ouvrage intitulé « Histoire et culture du libre, des logiciels partagés aux licences échangées », un pavé de plus de 500 pages qui se propose finalement de devenir une espèce d'indispensable dans sa bibliothèque de libristes.
Ah oui, c'est clair que là maintenant qu'on a publié un ouvrage comme celui-là, on peut dire que le livre arrive en une phase de maturité et dispose désormais d'une histoire, oui.
Une histoire qui remonte à quand? Quand est née cette volonté de faire un compendium de toute l'histoire, de faire ce qu'on appelle un ouvrage de référence?
Alors oui, c'est bon, maintenant on peut dire que ça fait un an, puisqu'on avait commencé avec Camille Palotte-Berge de réfléchir un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait construire cette histoire, et puis surtout qui pourrait contribuer à écrire ça, parce que évidemment, à deux ou même seul, enfin c'est pas possible. Il y a une diversité assez étonnante des champs, par exemple le libre et le logiciel et les activités ludiques, le libre et la musique, enfin tous des thèmes comme ça qu'on retrouve dans le livre et qui nécessitent une étude à part entière. Alors on avait commencé comme ça en mai dernier, on a lancé un appel à publication, et puis à notre grande surprise, il y a plus de 40 abstracts qui sont arrivés. On a dû faire un choix qui repose essentiellement non pas sur la qualité des abstracts, qui étaient tous très intéressants, mais sur la cohésion du livre, c'est-à-dire essayer d'avoir une approche qui brosse à la fois de l'histoire des techniques, l'histoire industrielle, l'histoire économique, l'histoire juridique, voilà, tous ces thèmes-là qui font qu'on obtient 580 pages, quoi.
Donc j'imagine du coup la sélection a été difficile?
Oui, assez, et puis on a eu aussi beaucoup de travail à faire avec les auteurs pour essayer de faire en sorte que un pan historique soit systématiquement donné à leur approche. Parce que bon, on parle vraiment d'histoire qui est quand même assez contemporaine, je veux dire, on va chercher dans les années 50, mais pas plus loin. Et donc il a fallu quand même donner un petit peu de matériel, on va dire, conceptuel aux auteurs. Qu'est-ce qu'on appelle le libre, c'est-à-dire dans ce livre, c'est-à-dire un ensemble de conditions sociales, techniques, philosophiques, tous les hic possibles qui font qu'on est passé finalement d'un modèle d'organisation et d'innovation logicielle à un modèle qui dépasse le logiciel et dont notamment l'Internet est l'un des vecteurs de réussite.
Tout à fait, le logiciel libre, pour tout ce qu'il nous dit sur l'informatique d'une part, mais aussi sur le droit, l'économie, la philosophie et la politique, est un excellent objet sur lequel la puissance de l'analyse historique montre sa force. Ça, c'est un extrait de la préface de Hervé Lecronier qui ouvre le bouquin avant l'introduction générale que tu as écrit avec Camille Palotte-Berge. Et puis et après, ça s'attaque directement à la préhistoire du libre.
Voilà. Alors la préhistoire, c'est l'histoire d'une frustration de ma part aussi. Pourquoi on a fait une préhistoire? C'est parce que les différentes histoires du libre qu'on a sont des histoires qui reposent essentiellement sur des biographies, sur des grands hommes, Richard Stallman, évidemment, Linus Torvalds, tous ces gens-là qui ont œuvré, évidemment, pour le libre de manière tout à fait significative. Mais le problème qu'il y avait, c'est que de qui sont-ils les héritiers ? C'est difficile à comprendre quand on regarde un petit peu l'histoire de Stallman. On comprend son histoire qui, parfois, frise le folklore, mais en même temps, est une histoire qui illustre tout à fait la question du libre et la philosophie du libre. Mais voilà, donc on a réussi à montrer, par exemple, que, enfin, c'est ce que je demande dans mon article, tout du moins, que Richard Stallman cristallise tout un ensemble de comportements d'innovation et d'organisation qui sont hérités, plutôt, ils sont allés trouver chez IBM, chez les modèles industriels en vogue à ce moment-là, dans les fins des années 50, sur des gros ordinateurs. Qu'en fait, les questions que, finalement, arrive à résoudre, ou du moins formaliser Stallman, à savoir par la GNU-GPL et par ses actions, sont en fait des questions récurrentes qui se posaient une bonne quinzaine d'années auparavant. Donc voilà, c'était important d'aller chercher un petit peu la petite bête là où elle se trouvait.
Et puis alors, il y a quelque chose qui fait beaucoup parler, qui a même fait couler de l'encre au niveau de l'Organisation des Nations Unies, autour justement de l'économie du libre. Ça intéresse beaucoup d'économistes qui réfléchissent, on va dire, aux impasses dans lesquelles on est actuellement. Là aussi, ça méritait un chapitre.
Alors oui, là c'est des gens de l'INRIA, donc Stéphane Riba, Stéphane Ubeda et Pierre Gioux, qui ont amorcé, au moins, une partie très intéressante sur les différents modèles économiques du logiciel libre. Et je pense que là, oui, c'est un vrai repère qu'ils ont essayé de faire. Voilà, avec tout ce qu'ils rencontrent à l'INRIA, et différents modèles, on va dire, soit théoriques, soit aussi tout à fait pratiques. Hein. Je pense tout ce qui est open standard, tout ce qui est l'application... l'open technology appliquée soit au matériel, soit à la standardisation, enfin des choses comme ça qui sont pas évidentes à comprendre.
Et puis il y a aussi les Pierre-Amiel Giraud qui fait un chapitre sur les rencontres mondiales du logiciel libre, outre de les mettre en avant car elles le méritent, c'est quelque part c'est pour souligner que cet événement qui, rappelons-le, sont des rencontres, un cycle de rencontres non commerciales, est aussi comme un symbole de ce mouvement.
Bah là, il montre carrément que c'est plus qu'un symbole, c'est que en fait, c'est l'occasion pour des libristes non seulement de se rencontrer, mais aussi d'être inscrits dans une logique qui est territoriale. Alors territoriale, ça ne veut pas dire uniquement en France, puisqu'on sait que les rencontres, par exemple, vont se tenir en Belgique là en mois de juillet prochain et se sont tenues en Suisse l'année dernière, mais en même temps, l'inscription du libre dans la société, dans son territoire, dans ce qu'elle a de plus proche. Avec les vrais gens, quoi, en fait. C'est pas, je veux dire, le libre n'est pas quelque chose de complètement théorique.
Et puis Benjamin Jean, qui est un grand spécialiste des questions juridiques, signe un papier autour des licences, justement, ces licences libres dont on parle beaucoup, et qui pose elle aussi la question finalement de est-ce que les systèmes de gestion civile sont pas un peu dans l'impasse aujourd'hui, est-ce que il y aurait pas une refonte du droit d'auteur à faire derrière tout ça. À Paris va se tenir dans les prochaines semaines une conférence sur le cloud computing, à qui appartiennent les données, donc toutes ces questions là sont aussi omniprésentes aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Là, Benjamin nous fait encore là une fois preuve de sa grande rigueur d'analyse. Oui, ce sont des questions qui sont, on va dire, plus que contemporaines, sont vraiment très actuelles, et on les pose là à travers le prisme de l'histoire, quoi. Donc Benjamin le fait avec les licences libres, tout à fait.
Et puis l'ouvrage se termine en partie par des études de cas. Là aussi, c'était important pour que ce soit Wikipédia, que ce soit l'initiative Logiciel Libre à l'Assemblée Nationale ou etc. C'est important aujourd'hui de montrer, de rappeler pour ceux qui l'ignorent et qui vont peut-être justement avoir envie de lire ce bouquin qui s'adresse, on va dire, au plus grand nombre, qui n'est pas, on va dire, un manuel de codage pour Python. Donc là aussi, les cas concrets, c'est toujours plus parlant, finalement. En tout cas, c'est autant aussi parlant que des analyses.
Oui, tout à fait. Alors, on a essayé de faire en sorte que la personne qui lit ce livre puisse le prendre de n'importe quel bout, en ayant d'abord peut-être envie de s'intéresser au cas concret. Alors l'histoire de Wikipédia, l'histoire de Mozilla, ça peut faire un petit peu storytelling hein, comme ça, mais en même temps, ça contextualise les différents projets. Je pense aussi à une histoire d'un logiciel qui s'appelle Pure Data, mm-hmm. Donc qui est très intéressant du point de vue de la manière dont il a pu générer une communauté, comment elle s'est construite autour d'un logiciel et autour de la musique et de la création. Donc voilà, oui, c'est tout à fait ça. Les études de cas sont pas là uniquement en tant qu'illustration, mais peuvent être une porte d'entrée vers l'histoire. Mmh.
Et puis ça se termine par des témoignages sur le libre et les institutions, avec un point d'histoire de la stratégie d'INRIA sur l'open source, la place du logiciel libre au CNRS, et puis le président de la DULAC, François Hilly, qui parle des trois communautés aux forges de demain, ou encore l'éducation nationale, qui a beaucoup fait parler d'elle ces mois derniers autour de... on va dire de Microsoft et de l'éducation nationale. Là aussi, il convient d'enfoncer le clou, que ce soit sur les collectivités locales qui font partie du public, et puis l'éducation nationale qui encore aujourd'hui, et pour longtemps espérons-le, reste dans le giron du public.
Oui, ben espérons que oui, ça reste public, bien sûr. Mais en fait, la question avec les institutions, c'était de voir, premièrement, qu'elles ont joué un très grand rôle dans l'histoire du libre. On ne croit pas, mais bon, il y avait toute une discussion qu'on a fait au lancement du livre là vendredi dernier à Paris, qui portait sur la question de l'hégémonie nord-américaine des licences, par exemple. Notamment la GNU-GPL, parce que en France, on a Cécile, hein, tout l'ensemble de licences créées par l'INRIA. Donc ça pose aussi ce genre de questions et qui pourrait éventuellement s'ouvrir sur un tome 2 de une suite, si vous voulez, de ce bouquin, parce que toute une question de l'ordre de la politique et de la gestion publique et de la décision publique autour du libre qui n'est toujours pas encore bien historicisé, on va dire. La décision publique autour du logiciel libre, elle date pas d'hier, hein, vraiment, elle est très ancienne. Donc on peut vraiment effectivement se poser la question pourquoi il y a de telles hésitations actuellement dans les instances, et en particulier dans l'éducation nationale.
Des hésitations, des doubles discours, des choses un petit peu schizophréniques parfois, disons-le, lâchons le mot. Cet ouvrage, comme tous les ouvrages de Framabook, il est évidemment librement téléchargeable sur framabook.org, mais on peut aussi se le procurer au prix de 25 € sur EVL via le site framabook.org, parce que c'est aussi un moyen de soutenir l'activité de Framabook.
Eh oui, tout à fait. Et puis de Framasoft en général. C'est-à-dire que là, on privilégie, si vous voulez, la diffusion sur la distribution, évidemment, hein, puisqu'on donne gratuitement les versions électroniques. Mais bon, allez, c'est toujours aussi simple de prendre le bouquin, et puis surtout à l'approche des vacances, de pouvoir se poser sur la plage et lire sereinement et religieusement l'histoire du livre.
Voilà, puisque le papier n'a pas besoin d'une connexion Wi-Fi pour afficher les contenus, oui. Ce qui est quand même extrêmement moderne, quoi qu'on en dise.
C'est très compatible. Hein.
Oui, et en plus...
C'est pas compatible le format. Hein.
Absolument. Christophe Masuti, bien, merci beaucoup. Et puis, on espère qu'un maximum de personnes puissent lire et puis acheter ce bouquin pour lequel on vous applaudit des deux nageoires, parce que j'imagine que ça n'a pas dû être facile de mener comme ça un ouvrage avec plus de 22 collaborateurs. Et puis, évidemment, on restera au courant des prochaines parutions de Framabook. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Je rappelle framabook.org pour tout autre renseignement sur les divers ouvrages, parce qu'il y en a beaucoup. Combien de Framabook ont été publiés à ce jour ?
J'ai pas le chiffre exact, mais une bonne vingtaine, je dirais.
Une bonne vingtaine, dont tu me disais, comme ça, hors antenne, que pour le plus grand nombre, et puis pour mettre dans sa bibliothèque éternelle, il y en a une bonne dizaine qu'il faut vraiment absolument se procurer.
Absolument.
Alors, tu es le fondateur de Framasoft, qui était il y a longtemps un annuaire de logiciels gratuits, mais devenu libriste et ô combien, puisqu'aujourd'hui c'est toute une nébuleuse d'annuaires, Framalibre, de clés USB, Framakey, de DVD, FramaDVD, de distributeurs, Framapack, d'infos, Framablog, de livres, Framabook, de traductions, Framalangue, de vidéos, Framatube, de musique, Framazik, d'outils, Framapad, Framadate, Framacalque, FramMindMap, FramaVectoriel ou Framaphonie. C'est aussi un laboratoire, le Framalab, un forum, la Framagora, une forge, Framacode, une boutique, Framashop. Eh bien non, c'est en vente libre. Alors, tout ça, c'était pour arrêter avec les déclinaisons de Frama.
Alors, c'est amusant d'y aller aussi vite. Alors, du coup, ça montre bien que nous sommes foisonnants de projets. Et ça, c'est un petit peu notre ADN, j'ai envie de dire. En ce qui concerne, mais ce qu'il y a, c'est que il y avait cette multiplication de projets finissait par ne pas devenir, par manquer un peu de visibilité. Et donc, pour parler de notre actu, on a récemment mis à jour de manière spectaculaire notre page d'accueil.
Oui.
Alors, c'est peut-être un détail pour toi, pour les auditeurs, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Surtout que quand tu tapes logiciel libre dans un moteur de recherche célèbre qu'on ne nommera pas, le premier lien, généralement, c'est Wikipédia, mais le deuxième, c'est nous.
Mmh.
Et donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui arrivent sur cette page d'accueil. Et là, on a voulu un petit peu mettre tous ces projets, un petit peu les structurer, ce qui était pour nous assez implicite, mais qui n'était pas forcément pour le visiteur. Mmh. Et du coup, on a dégagé trois grands axes. L'axe logiciel libre, qui est l'axe historique, si tu veux. Et là-dessus, il y a l'annuaire, il y a les clés, la Framakey, le DVD, le pack, Framapack que tu citais. La culture libre, on en a parlé avec Christophe tout à l'heure pour les Framabook, mais tu as aussi le blog, tu as aussi tout le module de les traductions qui ont été citées dans la revue de presse, Framalangue, Framatube qui se veut un peu le YouTube de la vidéo libre, etc. Framazik. Et puis le dernier secteur qu'on a développé assez récemment et qui marche plutôt bien, qui sont ce qu'on appelle les services libres. Nous, le nom de code, c'est Framacloud, où on propose un ensemble d'applications en ligne pour faire du traitement de texte collaboratif ou du tableur collaboratif ou pour se donner rendez-vous parce qu'il y a pas, il y a des alternatives propriétaires mais qui n'ont pas du tout la même logique, qui vont te coller de la pub partout, qui vont prendre ton email, on ne sait pas ce qu'ils vont en faire. Par rapport aux données personnelles, qui est un sujet ô combien sensible là encore, c'est pas très clair. Donc nous on propose des alternatives libres et ça fonctionne plutôt bien. Et donc on a voulu regrouper tout ça sur une page d'accueil beaucoup plus claire et lisible. C'est sorti il y a un peu plus d'un mois et voilà, pour nous c'était un point d'étape important.
Oui, je confirme qu'effectivement, du coup, on comprend bien les divers secteurs et les divers projets à l'intérieur de tous ces secteurs. Alors au départ, c'est toi qui fonde ce projet. Combien vous êtes aujourd'hui? Parce que quand on voit justement la multiplicité des actions et puis des productions aussi, hein, on voit régulièrement Framalangue, c'est très actif, etc. Ça représente combien de personnes finalement qui contribuent régulièrement?
Alors c'est toujours un petit peu difficile d'évaluer. Ce qui est certain, c'est que toute cette nébuleuse de projets est soutenue par une association, dont Christophe Mazuti est le président. Cette association, ça étonne les gens, mais on n'est pas très très nombreux. Elle est là pour soutenir justement tous ces projets. Ces projets sont majoritairement gérés de manière communautaire, c'est-à-dire que en fait, par exemple, on a cité Framalangue, mais Framalangue, il y a une liste, mais c'est aussi les gens qui sont disponibles à l'instant T et qui sont connectés par exemple sur Twitter et qui viennent participer. Ce qui rassemble tout le monde, c'est le fait que ce sont les licences libres en fait. C'est le fait que ce que l'on va produire, ce que l'on va créer ensemble, ça va être mis à disposition de tous.
Et puis il y a une partie aussi de développement d'outils, donc ça veut dire que vous écrivez du code pour générer des outils. C'est la Framaforge. Framacode.
Oui, c'est assez nouveau. C'est un beau challenge. C'est-à-dire que en posant ces services libres en ligne, alors ça, qui rencontre un certain succès, notamment Framapad, Framadate, l'enjeu futur, c'est de les améliorer. Et donc d'essayer de faire en sorte que les gens apportent du code, mettent à jour, etc. Il y a Salon Solutions Linux qui aura lieu à Paris la semaine prochaine. On espère rencontrer d'éventuels codeurs qui viendront apporter leur pierre à nos applications.
Voilà, puis pour terminer, l'association se structure aussi, année après année, etc. Là, vous commencez à avoir des permanents. Pour autant, vous êtes aussi à la recherche d'un modèle économique, d'arriver à vous développer, parce que c'est pas facile.
Oui, c'est assez certain. Nous, on est... tous ces projets-là, pour que ça fonctionne, derrière, il faut qu'il y ait des petites fourmis dans les coulisses qui fournissent un certain nombre de tâches, parfois ingrates. Nous, on fonctionne sur... On parlait des modèles économiques. Nous, c'est de l'économie du don. C'est-à-dire que notre budget vient à 80%, enfin majoritairement, des donations individuelles sur Internet. Notamment des dons récurrents, c'est-à-dire des gens qui acceptent de donner 10 euros par mois. C'est un modèle qui est original. Évidemment, c'est tendu et c'est fragile, mais il n'y a pas de subvention publique, il n'y a pas de partenariat privé, on a une certaine liberté et indépendance. Mais ça implique que les gens fassent, nos visiteurs fassent ce petit effort d'aller sur le site soutenir et de sortir la carte bleue pour nous donner 10 euros par mois, qui sont, je le précise, défiscalisables, ce qui est non négligeable.
Ce qui est non négligeable, et d'autant que vous adressez quand même à une sphère qui est même, on va dire, qui est supranationale, qui est même sur toute la francophonie, voire même au-delà.
Tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion récemment de me rendre au Québec, puis en Algérie, chez des amis de Framasoft ou des collaborateurs ou des gens qui font justement partie de la communauté. C'est tout à fait sympathique et agréable de savoir que l'on rend aussi service aux quatre coins du monde et de la francophonie.
On précise, Alexis, qu'il y a une mise à jour majeure de l'annuaire de logiciels libres de Framasoft a été faite tout récemment.
Non, mais a été entreprise. Et a été annoncée sur le blog et ça va s'appeler Framalibre. Et l'ambition, c'est d'aller d'abord de mettre à jour notre base parce qu'elle est devenue un petit peu obsolète avec le temps, mais surtout d'aller au-delà du logiciel. En fait, on a parlé du logiciel libre dans ton émission, mais quand on regarde la revue de presse et l'intervention de Christophe Azudi, on voit que ça va bien au-delà. Et nous, on voudrait justement avoir un annuaire qui non seulement nous soit pertinent par rapport à la recherche et de logiciels libres, mais également proposer toute une entrée sur la culture, le matériel, la vie publique. Par exemple, une initiative comme Open Source Écologie, peut-être que vous en avez déjà évoqué dans l'émission, autrement dit de construire des machines agricoles de manière sous licence libre, en fait.
Ah oui, c'est cet ingénieur d'Europe centrale qui est parti s'exiler aux États-Unis pour être fermier et suite à la panne de son tracteur, il a décidé de le fabriquer lui-même, voilà. Et de mettre tout ça...
Parce que nous, maintenant, nous, notre slogan, c'est la route est longue, mais la voie est libre. Et la voie libre, elle va au-delà du logiciel aujourd'hui. Et c'est tant mieux.
On va se quitter là. Alexis, merci beaucoup d'être venu jusqu'à Montpellier en chair et en os pour cette 169e Divergence Numérique.
Merci pour l'invitation.
Longue vie à Framasoft et à tous vos projets. On remercie nos amis de Radio Escapade et de Radio Larzac en vous souhaitant de passer une excellente semaine et de rester libre. Salut à toutes, salut à tous. Divergence Numérique, l'actualité du logiciel libre sur Divergence est tous les jeudis à 12h30 et 17h30. Terra States.